VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 mars 2020. En raison du Super Tuesday qui s'est déroulé hier ici aux États-Unis, nous allons consacrer une bonne partie de cette édition aux résultats de cette série de primaires du Parti démocrate, cruciale pour l'investiture de ce parti à la présidentielle de novembre face au républicain Donald Trump. On votait dans 14 États ainsi que dans les îles Samoa américaines. 1357 délégués à la convention démocrate étaient en jeu et il faut une majorité absolue de 1991 pour décrocher l'investiture. Nous aurons aussi des analyses d'experts et politologues en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer, voyons avec Nanit Talani les premiers résultats du Super Tuesday.
Cette journée électorale visait surtout à savoir si l'ancien vice-président Joe Biden, l'ex-bras droit de Barack Obama, parviendrait à rattraper le sénateur indépendant et socialiste autoproclamé Bernie Sanders. Autre inconnu, l'entrée en lice du milliardaire Michael Bloomberg. Longtemps ultra-favori, mais tombé en disgrâce après de piteux résultats lors des premiers votes, Joe Biden a réussi une remontée exceptionnelle en remportant largement 8 des 14 États devant son grand rival Bernie Sanders. La Caroline du Nord, le Minnesota, la Virginie, l'Alabama, l'Oklahoma, le Tennessee, l'Arkansas et le Massachusetts. Lundi, il avait engrangé le soutien de trois ex-candidats, le jeune Pete Buttigieg, révélation des primaires, la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota et l'ex-candidat texan Beto O'Rourke. Bernie Sanders l'a quant à lui emporté dans son fief du Vermont, dans l'Utah et dans le Colorado. Les premiers décomptes au Texas, qui aura un poids prépondérant dans le résultat final, donnaient les deux hommes au coude à coude. Mais M. Sanders est le favori au Texas et en Californie, deux États ayant le plus grand nombre de délégués et véritable poids lourd de ce super mardi. Les résultats sont encore attendus aussi dans le Maine. Le grand perdant de la soirée est le milliardaire Michael Bloomberg, qui s'est lancé très tard dans la course, mais espérait, grâce à son immense fortune personnelle, déjouer les pronostics. Très loin derrière ses adversaires, il a en particulier obtenu des résultats médiocres en Virginie, état emblématique sur lequel il avait lourdement investi. La course à l'investiture dans le camp démocrate pourrait se compliquer pour l'ex-maire de New York, qui n'a remporté aucun état, arrivant en tête seulement aux îles Samoa américaines, qui attribuent 6 délégués.
J'ai pu m'entretenir hier soir des résultats de ce super mardi avec le politologue René Lake, journaliste basé à Washington, et avec mon collègue de VOA Afrique, Henri Francisque. J'ai voulu savoir quelles conclusions il tirait de ce super Tuesday. D'abord, René Lake.
J'ai envie de dire, d'utiliser l'expression américaine de l'époque pour Clinton, de dire que c'est le comeback kid, Joe Biden, c'est le grand retour. Et je crois que c'est une soirée absolument extraordinaire, absolument imprévisible il y a simplement 2 ou 3 jours. C'est le, je dirais pas le grand chelem, mais il a gagné beaucoup plus d'États qu'on ne le pensait.
Pour le gros lot, c'est la Californie et c'est le Texas. Pour ces résultats, je crois qu'il faudra attendre un peu plus, n'est-ce pas?
Il faudra attendre un peu plus, mais j'ai vu qu'il y a déjà certains médias qui projettent une victoire de Sanders en Californie. Bon, c'est ce qui était prévu. La question ce sera de savoir quelle est la marge. Sanders est en tête également au Texas, mais on ne peut pas encore. Je crois que c'est un peu trop serré pour qu'on puisse conclure quoi que ce soit. Mais il semblerait quand même que ces deux États-là, qui sont les plus importants en termes de délégués, pourraient aller à Sanders.
Il semble que quand même avant la victoire de M. Biden en Caroline du Sud, il a semblé qu'il n'était pas en très bonne posture en Californie et que, bon, maintenant, il va pouvoir dépasser le seuil des 15%, ce qui lui permettrait maintenant d'avoir des délégués en Californie.
Tout à fait. Parce qu'en fait, c'était un peu sur ça que comptait Sanders. Il y a plus de 400 délégués en Californie et on pensait que Joe Biden n'arriverait même pas à 15%, ce qui ferait qu'il n'aurait quasiment pas de délégués. Mais je crois qu'avec le momentum qu'il a obtenu depuis les résultats de la Caroline du Sud, Joe Biden aura certainement plus de 15% en Californie, à mon avis.
Et que dire de Bernie Sanders?
Bernie Sanders, alors c'est vraiment assez surprenant. D'abord, moi je pense que la première leçon à tirer, c'est qu'il n'a pas fait les scores auxquels on pouvait s'attendre, ou du moins le travail qu'il a fait au niveau de la communauté noire n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc il a été largement battu au niveau de la communauté noire. Et si vous regardez en fait les résultats de Joe Biden gagne pratiquement partout où les noirs sont au-delà de 22-23% des votants, Joe Biden gagne. Donc pratiquement tous les États du Sud. Sanders gagne toujours les États qui sont un peu à l'ouest du Mississippi, comme on dit. Mais vous avez noté qu'il a perdu le Minnesota, qui est un État que Sanders avait gagné la dernière, en 2016 avec Hillary Clinton. Il n'est pas en très bonne posture dans le Maine. Joe Biden a également gagné le Massachusetts. Donc il y a des États qu'on pouvait penser que Bernie Sanders gagnerait et qu'il a perdu. Donc c'est assez surprenant. Oui. Donc, moi je pense que les trois grandes surprises en fait c'est Oklahoma, Minnesota et Massachusetts. C'était trois États où il était absolument évident pour tout le monde que Sanders allait gagner et bien il les a perdus.
Vous avez parlé du Maine, vous n'avez pas parlé du Vermont qui est l'État de Sanders et qu'il a remporté, mais
oui,
il a perdu en Nouvelle-Angleterre quand on pense que en fait ça devrait être sa base naturelle.
Tout à fait, c'était vraiment très étonnant. Très étonnant également le score, elle arrive troisième, Elizabeth Warren, alors que c'est son État, elle est sénatrice de cet État. Vraiment, les résultats sont très surprenants, Idrissa.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en tirer comme leçon pour Elizabeth Warren, pour l'ancien maire de New York,
Michael Bloomberg. Bon, Michael Bloomberg n'a pas fait de bons résultats dans tous les États en dit rouges, qui sont des États plus ou moins conservateurs, où notamment les Noirs sont très nombreux. Mais par contre, sur un peu plus à l'ouest, il arrive entre 10 et 18% même dans certains États. Mais je crois que globalement, sa stratégie n'a pas marché. Donc j'ai l'impression qu'il aura du mal à justifier de rester dans la course. Et même chose pour Elizabeth Warren. J'ai du mal à voir comment elle pourrait rester dans la course dans les semaines qui suivent.
Parce qu'elle a aussi perdu dans son propre État, le Massachusetts.
Tout à fait. Et quand on perd dans son propre État, c'est difficile de justifier qu'on puisse gagner un autre État. Je ne vois pas dans le contexte actuel un seul État que pourrait gagner Elizabeth Warren. Alors à un moment, je disais justement que je pensais qu'elle voudrait jouer peut-être un rôle un peu de consensuel, si vous voulez, par rapport à la convention qui pourrait être contestée, où elle pourrait rallier à la fois ce qu'on appelle le camp progressiste et le camp plus démodéré, parce qu'elle est acceptée par les deux camps. Mais là, il me semble qu'elle n'a pas suffisamment de délégués, même pour jouer ce rôle-là. Donc j'ai du mal à l'imaginer rester dans la course.
Notre confrère René Lecq, maintenant avec Henri Francisque, autre leçon à tirer de ce Super Tuesday.
Eh bien, c'est une grande surprise, puisque l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a réalisé un miracle. En fait, depuis qu'il a reçu le soutien de James Clyburn, qui est le numéro 3 démocrate à la Chambre des représentants, il va de miracle en miracle. Il a remporté une grande victoire en Caroline du Sud, une surprise. Et puis maintenant, pour Super Tuesday, il a déjà 8 victoires en poche et les autres États sont en jeu pour lui, il a une chance de gagner.
Quand vous parlez de Clyburn, vous parlez d'un leader noir américain qui est très influent dans cet État de Caroline du Sud et au sein du Parti démocrate. C'est ça qui a donné en quelque sorte le coup de fouet à M. Biden?
C'est exactement ça. Il a écouté James Clyburn qui lui a dit qu'il fallait qu'il soit plus agressif, qu'il change de tactique, qu'il soit plus performant. L'ancien vice-président s'est refait une jeunesse, pourrait-on dire. Il est reparti au travail et le résultat est acquis maintenant. Il a remporté la victoire dans 8 États et il est en bonne position dans 4 autres. Le milliardaire Michael Bloomberg a gagné un État, American Samoa, ce sont des îles dans le Pacifique, il a gagné dans ce territoire. Et puis, il y a les États qui sont en jeu, dont on n'a pas encore les résultats.
Henri, quand vous parlez des États dont on ne connaît pas encore les résultats, vous voulez parler de la Californie et du Texas, n'est-ce pas? Et
pourquoi, exactement, et pourquoi Texas, Californie. Et l'État de Maine, sur la côte est, pas très loin du Vermont, qui est l'état de Bernie Sanders.
Oui, donc, en réalité, Bernie Sanders a remporté les victoires là où l'on s'y attendait quand même, n'est-ce pas? Et Biden a surpris en Caroline du Nord, en Virginie, dans l'Oklahoma, dans le Tennessee, dans l'Alabama et dans l'Arkansas, des états où quand même il y a une bonne diversité ethnique.
Oui, une forte minorité noire, ce sont les États de l'ancienne Confédération. Et puis, il y a eu cette victoire surprise de Joe Biden dans le Minnesota. Tout le monde pensait que Bernie Sanders allait gagner dans cet État. Et là, on sent l'influence de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, qui a renoncé à la course à la présidence et qui a apporté son appui à Joe Biden.
Et c'était un de ces appuis qui était nécessaire à Biden pour rassembler en quelque sorte tous les éléments, si je puis dire, modérés du Parti démocrate face aux démocrates socialistes comme...
Oui, ce qu'on appelle les centristes ici, les démocrates qui sont au milieu de l'échiquier politique, ni trop à gauche, ni trop à droite. Et puis, il y a aussi une autre surprise, c'est la victoire de Joe Biden dans l'État du Massachusetts.
Oui, l'État même de la sénatrice Elizabeth Warren, qui est candidate à la présidence, n'est-ce pas, des États-Unis.
Oui, et qui a fait une déclaration après le vote, le décompte des voix, et elle dit qu'elle va continuer à se battre et qu'elle n'a pas l'intention de jeter l'éponge.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que sa candidature est celle de Mike Bloomberg? Oui, en fait, ce sont les deux principaux qui restent en réalité, les deux principaux.
Oui, il reste cinq candidats, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard, qui est une députée de Hawaï et qui n'a pas eu de bons résultats. Et puis Michael Bloomberg, le milliardaire.
Oui, alors donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, en fait, les deux principaux qui restent, Bloomberg et Elizabeth Warren, jettent aussi l'éponge?
Ben, c'est ce que disent les experts. Les experts disent que ces deux candidats n'ont aucune chance d'obtenir la nomination comme candidat démocrate à la présidence. Donc, beaucoup d'experts leur demandent de jeter l'éponge et de suivre l'exemple d'Amy Klobuchar et d'autres qui ont compris qu'ils n'avaient aucune chance et qu'il fallait laisser aux deux favoris le plaisir, pourrait-on dire, de se battre pour la nomination. Mais Michael Bloomberg a dit qu'il reste en ligne, il a les moyens pour se faire puisqu'il est multimilliardaire. Elizabeth Warren a le même projet, mais ce sera plus difficile pour elle. Et immédiatement après l'annonce des résultats du Super Tuesday, elle a envoyé un message à ses partisans pour leur dire qu'elle a besoin d'argent pour continuer la lutte.
Conclusion générale, Henri, après ce Super Tuesday.
Eh bien, tout est possible en politique. Puisque si on avait dit à un expert il y a deux semaines que Joe Biden serait dans la position où il se trouve en ce moment, c'est-à-dire un Super Tuesday qui lui a apporté 8 victoires dans 8 États, eh bien, on aurait dit que cet expert politique n'a pas le sens des réalités.
Mon collègue Henri Francisque de VOA Afrique et avant lui le journaliste et politologue René Leck, basé à Washington. Merci à Henri et à René.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le reste de l'actualité, quatrième voyage du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, aux États-Unis depuis son entrée en fonction. Il a rencontré hier à Washington le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Mais que peut-on retenir de ce voyage de M. Tshisekedi? Eddie Isango en a discuté avec l'ambassadeur itinérant du président Tshisekedi, Nicolas Kazadi.
Ce soutien a été réitéré par le secrétaire d'État américain, le chef de l'État rencontré, aussi bien sur les efforts en cours en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption et même sur les questions sécuritaires. Eh bien, les discussions ont tourné autour des efforts en cours, des dynamiques en cours en RDC, aussi bien sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, la lutte contre la corruption, que sur le plan politique et sécuritaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement américain soutient sans réserve les efforts en cours, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique et sécuritaire. C'était un voyage sur l'invitation, comme vous le savez, de AIPAC, hein, le grand lobby qui renforce les relations entre les deux pays, Israël et États-Unis. Monsieur le Président Félix Tshisekedi a été invité pour prononcer une allocution, ce qu'il a fait et qui a été très bien accueilli par la communauté juive. Son message était un clair message appelant au raffermissement des relations entre la RDC et Israël. Les relations qui existent depuis bien longtemps, qui ont connu quelques moments difficiles, qui ont repris en 80 et qui étaient un petit peu en léthargie.
Le président Félix Tshisekedi a aussi rencontré les hommes d'affaires américains. Il leur a parlé aussi de son projet de la gratuité d'enseignement et des soins médicaux. Mais qu'est-ce qu'il attend par rapport à ces deux projets?
Les hommes d'affaires américains, à travers la Chambre de commerce, ont souhaité manifester leur volonté de venir davantage investir en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, je crois que la semaine dernière, il y a General Electric qui est venu avec un engagement de $1 milliard sur des projets liés à l'électricité et à la santé. Ce signal-là n'est qu'un premier signal. On a eu beaucoup de manifestations d'intérêt d'entreprises américaines qui veulent venir.
C'était Nicolas Kazadi, l'ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi. Au Congo-Brazzaville, le maire de la capitale, Christian Roger Okemba, suspendu de ses fonctions pour détournement présumé de fonds, a été placé hier en garde à vue dans les locaux de la police où il est interrogé. Les autorités avaient annoncé une enquête pour faire la lumière sur les charges qui pèsent contre lui. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin.
L'information a été confirmée en début de soirée par des proches de Christian Roger Okemba. Le maire de Brazzaville a donc passé sa première nuit dans les locaux de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire où il s'était rendu dans la matinée pour répondre à une convocation de la DGST. D'après une source proche du dossier, l'interrogatoire devait se poursuivre et qu'il n'était pas bon de le relâcher avant d'avoir tout écouté. Le maire de Brazzaville est donc placé en garde à vue sous ordre du procureur de la République André Okongakala qui n'a pas souhaité expliquer la procédure à VOA Afrique. Soupçonné de détournement de fonds, notamment d'une somme de 1,250 milliard de francs CFA, Christian Roger Okemba a été mis en minorité par les élus locaux de Brazzaville avant d'être suspendu de ses fonctions par le ministre de l'Intérieur et la Décentralisation. Malgré la contestation de la société civile sur la qualité de la DGC à le garder, cette structure de renseignement de la police mène depuis quelques années des enquêtes liées aux affaires économiques et au détournement des deniers publics. Le gouvernement qui est engagé dans la mise en place de la haute autorité de lutte contre la corruption reste sous pression du Fonds monétaire international mais aussi de la population pour élucider de nombreux cas de corruption et de détournement, principalement par des gouvernants. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les autorités ougandaises ont libéré 13 ressortissants rwandais, dont deux femmes qui étaient maintenues en détention pour différentes charges, dont la détention illégale d'armes à feu. Il s'agit du deuxième groupe remis en liberté par l'Ouganda après la remise d'un autre groupe en janvier pour tenter de mettre fin aux divergences profondes entre les deux pays. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa, soutient que le retrait des charges contre eux fait suite à une réunion avec Kigali la semaine dernière. L'Ouganda a accepté de soutenir l'accord signé par les présidents Paul Kagame et Yoweri Museveni en août 2019 à Luanda, en Angola, pour mettre fin à l'hostilité grandissante entre les deux pays et normaliser leurs relations. Il a appelé le Rwanda à faire preuve de bonne volonté et à libérer les Ougandais détenus au Rwanda. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président Faure Gnassingbé, mais avec un score légèrement en baisse de 70,78% des voix. La commission électorale avait donné le président sortant avait donné au président sortant plus de 72% des suffrages. Le point avec notre correspondante à Lomé Kay Lawson.
La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs de la présidentielle et confirme la victoire de Fonia Singh avec une légère baisse du taux par rapport aux résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ainsi, Fonia Singh se retrouve crédité de 70,78% des suffrages exprimés, toujours devant Guillaume Kodo, 19,46%, et Jean-Pierre Fabre, 4,68%. Le candidat autoproclamé Guillaume Kodo, qui a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle, a vu son recours rejeté dans son entièreté pour défaut de preuves. Depuis les résultats proclamés par la CENI, Agbome Kodjo conteste la réélection de Fonia Singh pour un quatrième mandat. Ajoutons que les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent faire l'objet d'aucun recours. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, 4 militaires burkinabés ont été tués et 8 blessés mardi dans 2 explosions de bombes artisanales au passage de leur véhicule sur l'axe Ban-Koumbori dans le nord du pays. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait environ 750 morts et près de 800 000 déplacés depuis 2015. Au Mali même, un mouvement parrainé par l'imam Mahmoud Diko, éminente figure religieuse du pays, a appelé mardi à manifester vendredi à Bamako pour dénoncer les maux dont souffre le Mali, de la corruption à la manière de mettre un terme aux insurrections djihadistes. Selon Badara Diakité, membre du mouvement, il sera également question des équipements militaires, avions et blindés dont certains sont défectués, de la négociation avec deux des principaux chefs djihadistes, Iyad Ag Ali et Amadou Koufa, et aussi de la crise scolaire, alors que les enseignants sont en grève depuis des semaines. En revanche, a souligné M. Diakité, le mouvement n'a pas demandé le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, contrairement à des informations circulant sur les réseaux sociaux. Le Sénégal a enregistré hier son deuxième cas confirmé de coronavirus, le deuxième en 48 heures. Il s'agit d'un autre ressortissant français qui a récemment séjourné dans son pays et est arrivé à Dakar le 29 février. Son cas a été décelé dans un hôpital de la banlieue dakaroise avant d'être confirmé par l'Institut Pasteur de Dakar. Il est actuellement en quarantaine. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagui.
Le malade porteur du virus est un Français de 80 ans venant de la banlieue parisienne et arrivé au Sénégal ce samedi. Il a été consulté ce mardi 3 mars à l'hôpital Roi Baudouin de Guédiouaï où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fane. D'après le ministère de la Santé, son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes avec lesquelles il a été en contact et assurer leur prise en charge. Les autorités sanitaires ont également affirmé que l'état de santé du premier patient de nationalité française confirmé positif continue de s'améliorer. Dans le même temps, un second patient cas suspect de nationalité gambienne a été libéré ce mardi. L'homme qui revenait d'Espagne a été mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fane à cause des symptômes qu'il présentait. Mais finalement, les résultats des tests se sont révélés négatifs. Face à l'inquiétude grandissante de la population, le ministère de la Santé s'est engagé à fournir quotidiennement des informations mises à jour sur l'épidémie de coronavirus. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Et au Nigeria, le Parlement a approuvé hier à l'unanimité un congé de 2 semaines pour tous ses élus, arguant de leur sécurité face au coronavirus, dont un cas a été déclaré la semaine dernière à Lagos. Bagassi Koura.
En tant que représentants du peuple, nous pensons que nous ne pouvons pas discuter des lois alors que nous ne sommes pas certains de la sécurité face au coronavirus, a déclaré Inyumé Idem, rapporteur de la proposition issue de l'État d'Akwa Ibom. Nos congés commenceront jeudi 5 mars, a-t-il expliqué à l'AFP. Cette motion a été adoptée à l'unanimité et nous quitterons tous les lieux pour 2 semaines. Le député a demandé également la mise en place d'un comité parlementaire comprenant les élus des 2 chambres pour évaluer avec le gouvernement ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qui est fait pour aider à contrôler l'épidémie. Un seul cas de coronavirus a été recensé dans le pays vendredi à Lagos, capitale économique de 20 millions d'habitants à quelques 700 km de la capitale fédérale Abuja. Le malade, un ressortissant italien, était arrivé à Lagos en provenance de Milan le 25 février et s'était rendu dans une usine de ciment de l'état voisin d'Ogun dans le sud-ouest.
La Chine a fait état mercredi d'une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif et de 38 décès supplémentaires. Le bilan au niveau national est désormais de 2981 morts, a indiqué la Commission nationale de la santé, avec plus de 80 200 personnes infectées au total. La situation dans la région syrienne d'Idleb représente la plus grosse crise aujourd'hui dans le monde. C'est ce qu'a affirmé mardi un responsable de l'ONU, Kevin Kennedy, au lendemain d'une mission d'évaluation humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie. Pour le coordonnateur régional de l'ONU pour la crise en Syrie, les besoins sont accablants. L'ONU évalue à près d'un million de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, le nombre de déplacés dans cette région depuis début décembre. Damas tente de reprendre le contrôle d'Idleb à des djihadistes et à des opposants. En Iran, au moins 23 enfants ont été tués par les forces de sécurité lors de la répression des manifestations qui ont secoué le pays en novembre après une forte hausse du prix de l'essence en pleine crise économique, aggravée par les sanctions américaines. Selon un communiqué d'Amnesty International publié aujourd'hui et intitulé « Ils ont tué nos enfants », selon l'ONG, au moins 304 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées entre le 15 et le 18 novembre. Les États-Unis ont pour leur part accusé le régime de Téhéran d'avoir tué plus de 1000 Iraniens lors de la répression. En Nouvelle-Zélande, la police a arrêté un homme de 19 ans dans l'enquête sur des menaces faites contre une des deux mosquées de Christchurch, attaquée un an auparavant par un tenant australien de la suprématie blanche. La ville se prépare à commémorer mi-mars ce carnage dans lequel 51 fidèles musulmans avaient trouvé la mort et la police a augmenté les patrouilles au bord des lieux de culte. Les menaces contre la mosquée Al-Nour ont été publiées sur la messagerie Telegram. Des médias ont divulgué des photos d'un homme portant une cagoule et assis dans une voiture devant la mosquée avec un texte menaçant et un émoji représentant un pistolet. Enfin, en Afghanistan, un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a annoncé hier soir sur Twitter que le président américain Donald Trump a eu un entretien téléphonique avec le chef politique du groupe, Mullah Baradar, quelques jours après la signature d'un accord historique entre les deux camps. La veille, les insurgés avaient mis fin à la trêve partielle et repris leur offensive contre les forces afghanes.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le nouveau coronavirus continue sa progression dans le monde avec plus de 90 000 cas. Le gouvernement met en place des mesures d'urgence pour endiguer le Covid-19 et tente de rassurer les populations. En Afrique, 6 pays sont touchés. Pendant ce temps, l'épidémie suscite des inquiétudes quant à son impact économique et financier. Où en est-on dans la recherche du vaccin contre le Covid-19? Les mesures de prévention mises en place sont-elles efficaces? Les gouvernements africains sont-ils suffisamment préparés pour faire face à une possible multiplication des cas sur le continent? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre les émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ah,
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.